dans cette matinée du 15 août, nous continuons notre étude sur les droits du Fils de l'homme en considérant le chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux. Je demanderai à l'animateur numéro 1 de nous dire ce qu'il a trouvé sur la première question. Alors, mes amis, nous allons passer rapidement sur ces questions. Selon ce chapitre, quel est le sujet essentiel qui a été traité depuis le chapitre 2 au chapitre 7? Bien, vous l'avez éprouvé, c'est l'entrée de Christ dans le ciel comme véritable souverain sacrificateur. Vous savez maintenant ce qu'est un souverain sacrificateur. Je n'insiste pas, il nous représente auprès du Père. Ce sujet a été introduit au chapitre 1, verset 3, au chapitre 2, verset 17, et nous suivons au chapitre 3, verset 1 à 6, ensuite au chapitre 4, verset 14 à 16, c'est toujours du Seigneur dans le ciel, du souverain sacrificateur dans le ciel, au chapitre 5, versets 1 à 11, puis au chapitre 6, verset 20, le dernier verset du chapitre 6, et ensuite tout le chapitre 7. De sorte que cela, ça forme un ensemble. Et c'est cela, la somme de ces versets nous donne donc l'essentiel de ce que nous devons comprendre. En vous rappelant ces textes, oui, vous aurez ce que nous pouvons appeler la somme de ce que l'auteur a voulu dire. Ce résumé est le fait glorieux de la souveraine sacrificature du Christ dans les lieux saints, le ciel, où il est assis à la droite du trône de la majesté, c'est-à-dire dans une position de suprême grandeur. Le Seigneur se trouve dans une position de suprême grandeur. Il ne peut pas être plus haut, personne ne peut être plus haut. Et alors, nous avons découvert, et nous découvrons dans ce chapitre, que le véritable tabernacle, ce n'est pas celui qui a été fait par Moïse dans le désert. Le véritable temple du Seigneur, ce n'est pas celui qu'a construit Salomon, n'est-ce pas? Le véritable lieu très saint, le véritable lieu saint, il n'est ni à Jérusalem, ni en Samarie sur le mont Garizim, comme le croyaient les Samaritains. Le véritable sanctuaire, il est où? Il est dans les cieux. Et cela étant écrit peu de temps avant la destruction du temple de Jérusalem qu'avait restauré Hérode, l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut les préparer pour le moment où il n'y aura plus même de temple matériel, où on ne pourra plus aller en pèlerinage dans un lieu géographique. Avant, il fallait qu'ils montent, les Juifs, trois fois par an à Jérusalem. Et alors, ils avaient fait leur pèlerinage. Alors, vous voyez aussi tout l'enseignement qu'on peut recevoir pour nos jours et dans l'histoire de la chrétienté. On s'est bien éloigné de ces préceptes. On a fait des lieux saints. On vous recommande des pèlerinages Et si vous allez dans les quatre basiliques de Rome, vous aviez, avant Vatican II, mais il semble que ça revient aussi, des indulgences plénières aux conditions ordinaires. Alors, vous voyez que tout cela, c'était pris de l'Ancien Testament. Et puis, on a transposé cela dans l'Église, mais ce n'était pas la pensée du Seigneur. De sorte que l'Épître aux Hébreux, si vous voulez vous libérer de certaines traditions, si vous voulez vraiment une purification, ce qui est appelé plus loin une réformation, je ne parle pas de la réformation protestante, hein, mais une réformation de certaines manières de vivre, eh bien, lisez l'Épître aux Hébreux. Il n'y a pas des prêtres qui puissent vous aider davantage si jusqu'à présent vous avez eu davantage une religion de cérémonie, de rite, plutôt qu'un sauveur. Alors, nous savons que le Seigneur lui-même est dans ce tabernacle céleste, dont le tabernacle qu'a vu Moïse dans ce chapitre, il l'a dit, c'était une imitation des choses célestes. C'était une figure, ce qu'il a construit, ce que Dieu lui a montré, ce modèle qu'il lui a montré, était une figure des choses qui sont dans les cieux. La réalité était dans le ciel, mais ils avaient une figure. Comme nous, à la table du Seigneur, nous avons une figure de ce qui est dans les cieux, le Seigneur Jésus glorifié. Nous nous souvenons, à la table du Seigneur, de Jésus qui a donné sa vie et qui a versé son sang. Mais le Christ lui-même, il est dans les cieux. Et si nous voulons connaître sa présence réelle, est-ce qu'il suffit d'aller à l'église et de prendre l'hostie ou de prendre la communion? Il nous faut entrer dans le sanctuaire même. Et comment est-ce qu'on y entre? On y entre en esprit. Et nous devons y vivre dans ce sanctuaire, pas aller rendre visite au bon Dieu quand ça nous chante, comme si Dieu était enfermé dans une espèce de prison dorée qu'on appellerait le tabernacle qui est sur l'autel. Le Seigneur est dans son sanctuaire. Et c'est une vérité capitale. C'est là où il est entré que, en esprit, nous devons entrer à notre tour. Et là où il est entré, après s'être offert sur la terre comme la victime pour nos péchés, il est monté dans le ciel. Et il a été salué, lui qui était sur la terre la victime, il a été salué comme le souverain sacrificateur. Il n'y a que lui qui a ces deux positions. Le Seigneur a été la victime, et puis il a été le sacrificateur. Vous ne voyez pas les deux choses réunies en une seule personne. Il y avait une victime qui était un animal qu'on offrait, puis il y avait celui qui sacrifiait. Deuxièmement, pouvez-vous discerner un point capital dans la multiplicité des enseignements bibliques? Je dis simplement ceci, dans toute étude, il importe de ne jamais perdre de vue le sujet principal dont on s'occupe et de ne s'arrêter aux détails qu'en vue de l'ensemble. Que notre foi s'empare pleinement de cette vérité et nous serons en possession de la clé qui nous ouvre les portes de la vie du ciel sur la terre. ce sujet de la souveraine sacrificature est lié à la vie que nous devons connaître ici-bas pour faire la volonté de Dieu sur cette terre, comme elle se fait dans le ciel. Notre bourgeoisie à nous, elle est où, dit saint Paul, dans les cieux. Hein? Notre bourgeoisie est dans les cieux. Si vous êtes racheté du Seigneur, vous êtes devenu un homme céleste. Et tout ce qui s'est produit en Christ se reproduit en vous. Le Fils de l'homme a été crucifié. Quand vous croyez en lui, qu'est-ce qui arrive? Vous comprenez que vous avez été crucifié avec lui. Jésus est donc mort. Et vous, vous êtes mort. Et vous avez à vous considérer comme mort. Jésus a été enseveli. Et vous, vous êtes enseveli. Ce qui est figuré par quoi? Par le baptême, hein, qui représente notre ensevelissement avec Christ. Et quand vous disparaissez dans les eaux du baptême, cela veut dire qu'aux yeux de Dieu, vous n'existez plus comme pécheur. C'est fini. Le Seigneur est venu pour vous le donner par sa mort, cette libération. Que de fois, je me suis dit, pour ne plus vivre dans le péché, il faudrait que je sois mort. Bien, le Seigneur dit, c'est juste, mais tu n'as pas le droit de te suicider. Alors moi, je suis venu et je te prends avec moi dans ma mort. Ma mort sera ta mort. Et je ne dois plus seulement croire que Jésus a porté mes péchés sur la croix, c'est un aspect de la croix, mais je dois croire que non seulement il a porté mes péchés, mais il a pris le pécheur avec lui, de sorte que quand il a été cloué, j'ai été crucifié avec Christ. Je suis crucifié avec Christ, dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, nous mourons dans la foi avec le Christ, nous mourons à ce monde, à soi-même, à la chair, à la puissance de l'ennemi. L'ennemi ne peut plus rien sur un mort. Les tentations, eh bien, ne peuvent plus rien sur un mort. Vous pouvez tenter un mort, même qui était très gourmand, qui aimait les éclairs au chocolat, aller lui présenter un éclair au chocolat. Mange, mange, répond pas. Insultez-le, alors qu'avant il répondait, il répond pas. Battez-le, il ne vous donnera pas un coup de poing. Il y a une puissance dans la mort extraordinaire, et c'est ça notre vie, hein. Notre vie, c'est de pouvoir vivre la mort de Jésus. C'est ça la vraie vie. Et alors, est-ce que Jésus est resté dans la mort? Non. Comme il avait la vie en lui-même, il est ressuscité. Est-ce qu'il est ressuscité seul? S'il nous a pris avec lui dans sa mort, il nous entraîne avec lui dans sa résurrection. Le jugement que nous aurions dû subir et qui était notre condamnation éternelle, c'est lui qui l'a subi, et il nous entraîne ensuite dans sa résurrection, de sorte que notre jugement est passé, nous sommes passés de la mort à la vie, et nous ne venons plus en jugement, si ce n'est devant le tribunal de Christ, pour recevoir les récompenses, pour être examinés quant à nos œuvres. Mais nous ne sommes plus condamnés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair pour vous? Et alors, quand Jésus est ressuscité, il est resté où? Est-ce qu'il est resté sur la terre? Non, parce que s'il était resté sur la terre, il n'aurait pas pu être souverain sacrificateur, il y en avait d'autres. Pour qu'il soit réellement souverain sacrificateur, il fallait qu'il s'en aille au ciel, dans le lieu très saint, qui est le ciel. Alors, le Seigneur, ressuscité, est monté au ciel. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ses disciples qui l'ont vu monter du mont des Oliviers? Quand Jésus est monté, qu'est-ce qui est parti avec Jésus? Leur cœur. Leurs trésors sont allés au ciel, et là où étaient leurs trésors, là aussi serait leur cœur. Et c'est pourquoi, depuis ce moment-là, ils ne se disputent plus. Relisez la vie des disciples avec Jésus dans l'Évangile, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se jalousaient, ils se disputaient, ils voulaient savoir qui aurait la première place. Ils ne pouvaient pas être ensemble. Tandis que dès que leur cœur a été dans le ciel, ils ont pu tous être ensemble. Pierre, Jacques, Jean, et avec Matthieu, et avec même les femmes. Oui, il y avait les femmes qui étaient là. Et ils priaient ensemble dans un même lieu. C'est quelque chose de très beau. Il y a un changement complet. Et alors, maintenant qu'ils n'ont plus à chercher une place sur la terre, pourquoi? Parce qu'ils ont une place dans le ciel. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Ils ne s'inquiètent plus d'avoir une place sur la terre. Leur place est dans les cieux. Et ils vont expérimenter de plus en plus qu'ils n'ont plus de place sur la terre. Le Seigneur le leur a dit. Hein. Ils n'auront plus de place sur la terre, alors ils ne cherchent pas à avoir une place. Ils ne se cramponnent pas, ils ne s'enracinent pas. Ils deviennent des déracines. Vous comprenez bien ça? On est enraciné seulement dans l'amour de Jésus. Mais notre place est dans le ciel. Alors vous pouvez prendre ma place. Qu'est-ce que ça fait? De toute façon, on la perd un jour. Hein. Mais on ne peut pas me prendre la place qu'il m'a préparée. Et alors, l'objet de nos affections se trouve où? Sur la terre. Notre trésor est dans les cieux. Alors, vous craignez tellement les voleurs? Pourquoi est-ce qu'on craint les voleurs? Parce qu'on a des trésors sur la terre. Mais quand nos trésors sont dans les cieux et qu'on vit de la providence de Dieu pas à pas, eh bien, nous sommes délivrés d'une foule de crainte. Alors, affectionnez-vous aux choses qui sont dans les cieux. Et puis, quand le Seigneur nous reprend un être bien-aimé, nous savons qu'il n'est pas perdu, mais qu'il est dans un lieu meilleur que celui où nous sommes encore présentement. Alors, vous voyez toutes les consolations que vous pouvez avoir. De sorte que, je dirais que spirituellement, notre enlèvement a déjà eu lieu. Hein? Notre enlèvement a déjà eu lieu. Notre chez nous, notre maison, c'est chez lui. Hein? Là où il est, là aussi sera mon serviteur. Et nous sommes en esprit avec lui. Nous connaissons l'atmosphère du ciel. Et qu'est-ce qui est arrivé une fois qu'il a été glorifié? Il est dit que nous avons été ressuscités, Éphésiens 2, ensemble avec lui. Et que nous sommes assis ensemble, où? À la droite, dans les lieux célestes, en Christ. Donc, le Christ étant au-dessus des puissances spirituelles de méchanceté, nous nous sommes aussi au-dessus de ces puissances, de sorte que le combat contre les puissances spirituelles de méchanceté, contre Satan, nous le menons de dessus le trône. Donc, nous avons l'avantage, nous sommes au-dessus. Prenez cette position de foi. N'essayez pas de faire une trouée, une percée. Pour arriver jusqu'où il est, vous y êtes déjà. Saisissez votre position. Il vous a mis déjà dans le ciel. Et aux yeux de Dieu, vous savez comment il vous voit? Agréable dans le bien-aimé. Le Seigneur, Dieu, le Dieu très saint, trois fois saint, ne vous voit plus qu'à travers les perfections de qui? De Jésus. Quand vous vous regardez dans la glace, vous voyez encore les traces du vieil Adam. Hein? Mais c'est plus ça qui compte. Laissez-le briser le miroir. Occupez-vous de regarder votre homme véritable. Il est où? Dans le ciel. Et dans la mesure où vous fixez les yeux sur Jésus, eh bien, vous le reflétez. Vous le reflétez. Son image s'inscrit en vous. Et ce n'est pas vous qui vous transformez. Hein. Il n'est pas dit, nous nous transformons par nos efforts. Mais il est dit, nous tous, contemplant à visage découvert la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Par quoi? Par le Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous qui vous transforme à son image. C'est pas faites des efforts pour devenir plus beau, finissez-en de vous plaindre de la forme de votre nez, ou de la couleur de vos yeux, ou de vos oreilles collées ou décollées. Et ça n'a pas d'importance, ça, parce qu'un jour elles se décolleront totalement. Mais, non, mais voilà, vous savez bien que tout ça c'est périssable. Et alors, vous êtes des progrès. C'est pas ça qui est essentiel. Notre corps, qu'est-ce que c'est? C'est une tente. Elle est belle, votre tente? Eh oui. Loué soit le Seigneur pour la tente qu'il nous a donnée. Mais un jour, cette tente, on va la plier. Et on va habiter notre nouveau domicile qui est céleste. Et alors, c'est ces vérités-là qui doivent nous prendre aux entrailles. Nous sommes du ciel. Et alors, étant déjà du ciel, comme nous avons encore un témoignage à rendre, le Seigneur nous a redonné, si je puis dire ainsi, par le baptême du Saint-Esprit, pour être ses témoins. Et étant nés de nouveau, nés dans le Seigneur, il nous redonne au monde. De sorte que la nouvelle naissance, quand vous êtes né de la chair, comment est-ce que vous êtes arrivé dans le monde? Nu, tu l'as dit. Est-ce qu'il y en a un qui avait sa chemise? Brodée. Nu, je suis sorti. Ça, c'est la naissance physique. Mais quand vous naissez de nouveau, comment est-ce que vous naissez? Habillé, équipé entièrement de toutes les armes de Dieu. Parce qu'il vous envoie sur la terre. Les gens nés de nouveau sont des gens qui sont nés d'en haut et qui sont envoyés en bas. Mais leur citoyenneté, elle est d'en haut. Et alors, quand ils sont en bas, ils sont revêtus, Éphésiens 6, de toutes les armes de Dieu pour le combat. Mais leurs ordres, ils les reçoivent d'en haut. Ils sont sans cesse en relation avec le trône. Et ils sont ici-bas comme des ambassadeurs, comme des soldats de Jésus-Christ. Alors, quand ils se rencontrent, ils se tirent dessus. Les braves petits chrétiens, qui sont des envoyés d'en haut. Et puis voilà qu'ils se trouvent, mais comme ils sont d'un autre régiment, soi-disant, alors on se tire dessus. Au lieu de se soutenir. Quand on lançait des parachutistes, eh bien, ils se regroupaient. De sorte que nous, si nous sommes des parachutistes du ciel, nous devons nous regrouper pour nous soutenir dans l'effort que nous avons à faire dans un témoignage. C'est tellement beau, cela. Et ça doit devenir simple. Quand Jésus dit, mais si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment comprendrez-vous quand je vous parlerai des choses céleste. Si ça ne restait pas aux vérités de la conversion, mais aller plus loin, ne restait pas au lait, au c'est bon, le lait, mon petit lait. Bon, mais ce qu'il me faut, c'est de la viande, une nourriture solide. C'est d'entrer dans le sanctuaire où le Seigneur s'est assis. Alors, nous avons un témoignage, et puis, qu'est-ce que nous attendons maintenant? Celui qui reviendra et qui nous prendra auprès de lui, ce sera la relève. Alors, que faut-il pour entrer dans la maison? Vous l'avez dit, c'est une clé. Jésus s'est fait homme pour pouvoir conquérir pour lui-même et pour nous, pour l'humanité, la sienne et la nôtre, cette puissance et cette gloire de Fils, dont il jouissait auprès du Père avant que le monde fût. Si Jésus s'est fait fils de l'homme, c'est pour conquérir pour son Père une humanité qui sera avec Dieu dans l'éternité. Et cette gloire qu'il avait avant le monde, que le monde fût, et dont il parle dans la prière sacerdotale, Père, n'est-ce pas ? Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, quand il va y remonter, cette gloire, il dit, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. De sorte que l'amour du Seigneur va tellement loin, c'est ça le si grand salut de Dieu, vous ne vous imaginez pas qui est devant vous. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Ces choses qu'il a préparées pour ceux qu'il aime. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Alors, qu'est-ce que le ciel pour vous ? Bien, le ciel, je dirais, c'est moins un lieu qu'un état d'âme, une disposition d'esprit. C'est dans notre cœur que doit s'établir le royaume de Dieu. De même que le caractère de Jésus est céleste, tout ce qu'il nous donne, toute son œuvre en nous est céleste. Donc voilà la nourriture des parfaits. Si notre foi se nourrit de ces choses, notre vie revêtira un caractère céleste. L'esprit du ciel qui inspire les anges, qui vint sur le Fils quand il fut baptisé, qui est descendu à la Pentecôte, cet esprit aussi nous rend participants de son exaltation. Vous êtes en Christ. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Vous êtes en Christ et le Christ est en vous. Alors, si Jésus est assis sur le trône, il est roi sur le trône céleste. Lui, le premier, a réuni donc la sacrificature et la royauté. C'est bien le Messie, et je vous cite Zacharie 6, verset 13, où il était annoncé que la sacrificature et la royauté devaient appartenir au Messie. 6, verset 13. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône et sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Ce qui n'était pas dans l'ancienne alliance. Mais c'était annoncé qu'il y aurait parfaite union entre la sacrificature et la royauté, entre la vie civile et la vie religieuse. Plus de séparation. Et alors, si c'est vrai pour le Seigneur, c'est vrai pour ceux qui sont les siens. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit que nous sommes rois et sacrificateurs pour son Dieu et Père. Tout ce qu'a Jésus, nous l'avons aussi. C'est ça qui est fantastique. Vous êtes considérés, Apocalypse 1, verset 6, comme des rois et des sacrificateurs. Verset 5. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Et plus loin encore, nous voyons que nous sommes rois et sacrificateurs. De sorte que cela a un intérêt tout pratique pour nous. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus un domaine civil pour moi, puis un domaine religieux. Je ne peux pas dire, bien, les affaires sont les affaires, les choses de Dieu sont les choses de Dieu. Je dois me conduire dans la vie civile comme un véritable enfant de Dieu. Il n'y a plus cette séparation. La religion, donc, n'est plus une affaire de temps et de saison. Elle ne consiste plus en des actes spéciaux ou en certaines émotions. Notre souverain sacrificateur exerce son ministère royal sur tout ce qui concerne notre vie. Vous l'avez compris, cela. Le Seigneur a droit à toute notre vie. Il n'y a pas pour nous une vie civile et une vie religieuse. Nous avons une vie en Christ. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne ? C'est la vie du Christ. Hein? Alors, est-ce qu'il y a une vie pour les catholiques, une vie pour les protestants, une vie pour les évangéliques? Combien il y a de chemins pour aller au Seigneur? Il y en a plusieurs pour aller au Seigneur, mais pour aller jusqu'au Père. Il y en a un seul. Et quelle est la largeur du chemin? C'est Jésus, la largeur du chemin. Alors, il n'y a pas un chemin plus large pour des catholiques, ou plus large pour des protestants, moins large pour les évangéliques. Tout cela, eh bien, ça n'a aucun sens. Jésus est le chemin. Et si nous sommes en lui, nous marchons en lui. Et si nous sommes dans le chemin, quelle que soit notre origine religieuse, parce qu'on est né sans le vouloir, hein, les uns dans telle église, les autres dans telle autre, mais si on est né de nouveau, on est fils du même Père. Et c'est plus les traditions qui nous lient, c'est plus une affaire d'éducation, une affaire de mentalité, c'est une affaire de relation avec le Seigneur. L'avez-vous compris? C'est ça qui compte. Hein? Et alors, toute notre vie se passe comme étant en Christ. Alors, les trois grâces concernant la nouvelle alliance, eh bien, vous les avez citées. La loi n'est plus écrite sur des tables de pierre, mais dans leur cœur, comme il l'est dit dans Jérémie 31. Et notez bien, avec le verset 33, il s'adresse à des Juifs. Quand Dieu reprendra ses relations avec son peuple, il parle de cette nouvelle alliance. La loi est écrite dans leur cœur. Quand Jésus est venu, il disait, et vous l'aurez au chapitre 10 des Hébreux, la loi est au fond de mon cœur. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu as dit, je t'ai formé un corps. Et j'ai dit, je viens au Dieu pour faire ta volonté, ta loi est au-dedans de mes entrailles. La loi du Seigneur, elle doit être à l'intérieur, en nos cœurs, et c'est celle qui nous motive. Les enseignements du Seigneur nous motivent. Maintenant, la communion, c'est la seconde grâce avec Dieu. Aucun n'enseignera son prochain, mais tous le connaîtront. Tous seront en relation avec le Seigneur, le petit comme le grand. Et puis, finalement, le pardon des péchés. Le pardon des péchés. C'est tellement beau. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré que la première alliance avait vieilli. Et quand elle vieillit, c'est qu'elle est près de disparaître. Alors, il leur annonce cela parce qu'il sait très bien que le temple va bientôt être détruit. Alors, ce qui doit compter pour vous, c'est le sanctuaire céleste. C'est pas un sanctuaire terrestre. Vous pouvez être attaché à l'architecture du temple ou de l'église que vous fréquentez, mais c'est pas ça qui vous rapproche du Seigneur. Ça, c'est des goûts artistiques. Vous pouvez les avoir. Mais ce qui compte, c'est que nous soyons attachés au Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme question qui n'a pas été répondue?
Si les lois sont
écrites
dans notre placard, pourquoi étudier la Bible?
Oui, mais ça...
Quelqu'un qui m'a posé cette question-là.
Ah oui, ben qu'est-ce que vous répondez, vous?
S'adresse au peuple juif.
Et s'adresse au peuple juif, bien entendu. Mais dis-moi, toi qui as posé cette question, est-ce que tu es sincère? Pourquoi tu as posé cette question?
Non.
Tu peux lui dire petit menteur. Que Dieu soit vrai et tout homme menteur. C'est une excuse parce que c'est un paresseux ou une paresseuse. On n'a pas besoin de lire la Bible, la loi est écrite dans mon cœur.
Moi, je voulais avoir une explication en dernier phrase, verset 9, quoi, je ne me suis pas soucieux.
Bien. Alors, je ferai une nouvelle alliance, non comme l'ancienne que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main. Il était bon, hein? Il les a pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mais ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Or, le Seigneur leur avait dit, si vous continuez à murmurer et que vous ne voulez pas de moi, eh bien moi, je vous laisserai. On ne se moque pas de Dieu. Et Dieu dit lui-même, eh bien moi aussi, je les ai délaissés. Je ne me suis plus soucié de... Vous ne voulez pas de moi? Vous trouvez que je suis tannant? Eh bien, je m'en vais vous laisser. Et c'est la pire des choses. C'est quand Dieu nous abandonne. Mais souvenez-vous qu'on ne se moque pas de Dieu. Et Dieu ne s'imposera pas. Vous ne voulez pas de lui, il ne passera plus loin. Et cela, vous devez le savoir. Qu'il y a un moment où, si vous ne voulez pas du Seigneur, bien lui aussi ne se souciera plus de vous. Mais est-ce que vous vous souciez de lui? Est-ce que quand vous recevez une grâce et une bénédiction, est-ce que vous le remerciez? Bien, est-ce que vous trouvez que c'est tout naturel? Quand est-ce que c'est qu'on commence à prier pour nos yeux? Quand la vue baisse, hein? Mais combien de gens ont remercié Dieu d'avoir leurs deux yeux? Simplement parce qu'ils les avaient. Seigneur, je te remercie de m'avoir encore conservé la vue. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné des oreilles et que je puisse entendre encore Beethoven ou Mozart ou d'autres choses. Hein? Ou André. Oui. Non, mais c'est ça. On commence à penser à nos organes quand... Quand ils ne fonctionnent plus. Mais est-ce que nous remercions Dieu d'avoir encore nos deux mains? Est-ce que nous remercions Dieu d'avoir encore nos pieds? Vous avez déjà remercié Dieu pour vos pieds? Est-ce que vous avez remercié Dieu pour votre nez? Ou bien est-ce que vous avez murmuré contre vos parents? Vous avez un gros nez, puisque vous êtes venu avec ce nez-là? Mais laissez cela. Puis soyez reconnaissants, il y en a qui n'ont plus de nez. Parce qu'il était pris par la lèpre. Vous les avez vus déjà? Vous êtes déjà allé dans une colonie de lépreux? Hein? Alors, soyons reconnaissants pour ce que nous avons. Et bénissons le Seigneur. Mais ne murmurons pas, c'est cela. Ils ont tellement murmuré. À un moment donné, Dieu dit dans le chapitre 11 des Noms, voilà 10 fois qu'ils m'ont tenté. Voilà 10 fois. Il a pardonné 1 fois, il a pardonné 2 fois, il a pardonné 3 fois. Voilà 10 fois. Ça, c'est la mesure. Ça. Quand Abraham a prié pour le salut de la ville de Sodome, il s'est arrêté à combien? À 10. Et Dieu dit, s'il y en a 10, je pardonne. Mais il n'y en avait pas 10. Alors ne tentons pas le Seigneur. Est-ce que ça suffit, l'explication? Mais il faut souligner ce verset, n'est-ce pas? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Lui se soucie de nous tous les jours. Il prend soin de nous. Mais nous, est-ce que nous nous soucions de lui tous les jours? Que de fois on se souvient de Dieu, on ne se rappelle de Dieu que dans les mauvais moments. Alors là, on commence à crier. On nie l'existence de Dieu jusqu'à ce qu'on se trouve devant une situation terrible ou une peur affreuse. Et là, tu s'écrie, mon Dieu, ça y est sorti. Puis il a toujours dit qu'il n'y ait Dieu. Alors, je pense que vous êtes tout coupable. Oui.
Concernant verset 7,
où il mentionne la première alliance, si la première alliance avait été sans défaut. Et ça venait le fait que Dieu savait de tout temps que Adam et Ève prêcheraient. Pourquoi cette conception d'une alliance serait parfaite et qu'il serait obligé d'en faire une autre? Alors qu'il savait qu'Adam prêcherait.
Oui. Et j'ai essayé de vous en parler hier matin, hein, de cela, de la pensée profonde de Dieu, de son conseil éternel. Il y a évidemment là des choses qui nous dépassent et où nous devons simplement adorer, mais vous ne devez pas penser que Dieu a fait quelque chose d'imparfait. C'est quelque chose de plus que parfait. Mais pour arriver à cela, eh bien, il y a tout un cheminement. Et il y a des choses qu'il n'a pas pu faire, qu'il ne pouvait pas faire parce que il traitait avec une créature. Et si cette créature, il la voulait vraiment libre, eh bien, cela comportait un risque. Parce que les animaux, bon, il les a fait. Hein. Ils suivent leurs lois. Les astres, il les a fait. Ils doivent suivre les lois immuables. Hein. Mais l'homme, il se crée en quelque sorte un vis-à-vis. Et si l'homme était libre, il pouvait dire non à Dieu. S'il était réellement libre. Dieu ne voulait pas un être qui soit obligé de le servir, qui soit un robot, ou qui soit simplement, qui reste dans cet état d'innocence. Il voulait l'amener à la gloire. Et alors, comment révéler à cet être qu'il est amour? Eh bien, il le crée parfait, mais libre. Mais comme cette liberté comporte un risque, que l'homme peut dire non à Dieu, au cas où l'homme dirait non, Dieu dans son amour couvre le risque par un autre plan, le plan de la rédemption. Parce que Dieu amènera quand même l'homme à la gloire, mais alors par un chemin plus long. Mais il lui montre bien le chemin de l'arbre de vie qui était en Éden. Est-ce qu'il lui était défendu? Alors, non. Alors, symboliquement, si l'homme restait dans la communion avec Dieu, s'il s'approchait de l'arbre de vie, s'il se nourrissait de l'arbre de vie, eh bien, il n'aurait pas connu la mort. Ce qui lui était interdit, c'était de vouloir lui-même décider de ce qui était bien et de ce qui était mal. Par lui-même. Alors Dieu lui dit, si tu veux entrer dans ce chemin-là, si tu manges de ce fruit-là, si toi tu veux décider du bien et du mal, eh bien, tu mourras certainement. Parce que dans ce chemin-là, l'homme fera l'expérience que le bien, il n'est pas capable de l'accomplir, mais que le mal, alors là, il est expert. Tant qu'il était en relation avec Dieu, il était en relation avec celui qui est amour, avec celui qui est lumière, avec celui qui est vérité, avec celui qui est sainteté. Donc, l'homme, toutes les grâces, il les avait. Mais le jour où il désobéit à Dieu, la communication, la relation est coupée. Alors l'homme est retombé sur lui-même. Il n'est devenu que chair. La chute, au fond, c'est l'homme qui retombe sur lui-même. Avant, il était en relation avec Dieu. Dieu le visitait. Il n'était pas seul. Et c'est là qu'on peut dire que Dieu a créé l'homme trinité, hein, esprit, âme et corps. J'explique ça dans un de mes petits livres, là, Être chrétien. Esprit, âme et corps. Et il a dit, l'esprit de l'homme, c'est la lampe du Seigneur, hein, qui sont toutes les profondeurs du cœur. Alors, Dieu a créé l'homme à son image, comme il est trinité, il a fait esprit, âme et corps. L'esprit est la partie invisible de notre être par laquelle nous communiquons avec le monde invisible. Dieu est esprit et nous communiquons avec Dieu par notre esprit. Notre esprit, on ne le voit pas. Mais l'esprit se trouve dans l'âme. L'âme, c'est la psyché, c'est la vie psychique. L'âme, c'est notre moi, hein, ce qu'on appelle notre personnalité. L'âme, c'est nos sentiments, nos émotions, ce qu'on appelle le cœur, l'intelligence, la volonté. Tout cela, c'est du domaine de l'âme. Et puis, l'esprit et l'âme se trouvent dans le corps. Le vase, c'est le corps. Alors, le vase, le corps, c'est la partie matérielle, visible, la plus basse de notre être par laquelle nous sommes en relation avec le monde. Par notre esprit, nous sommes en relation avec les bien-aimés. Je voudrais que nous terminions cette première partie du camp et que nous commencions la dernière partie de nos rencontres de 1980 en écoutant quelques versets de l'Écriture que je trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 12e. À partir du verset 20, Jean 12, verset 20, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dire avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Dieu notre Père, qu'il en soit ainsi de cette heure que nous allons vivre ensemble. Pour la seule gloire de Jésus. Amen. Mes amis, vendredi dernier, 8 août, 1980, s'ouvrait le 11e camp Mahanaïm en ce lieu que nous louons pour la durée de nos camps à l'association Cedar Lodge. Et le mot que le Saint-Esprit m'avait donné ce jour-là pour souhaiter la bienvenue aux campeurs et aux campeuses de la première semaine ou de tout le camp, du camp complet, était cette parole de Corneille à Pierre, « Tu as bien fait de venir. » Et maintenant, continuez Corneille, nous allons tous être devant Dieu pour entendre ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Actes chapitre 10, verset 33. Aujourd'hui, j'apporte nos souhaits de bienvenue aux participants de la dernière partie du camp. Et je les vois arriver un peu comme ces Grecs qui étaient à Jérusalem pendant la fête pour y adorer le Dieu qu'ils recherchaient. Ils avaient entendu parler de Jésus et ils voulaient le rencontrer. Alors ils se sont adressés à ses disciples, comme nous l'avons lu, à Philippe d'abord, en lui disant « Seigneur », ce qui veut dire « Monsieur », « nous voudrions voir Jésus ». Et il pense qu'un des proches de Jésus pourra les mettre en contact avec Jésus. Mais Philippe est étonné. Et il va en parler à André, et c'est ainsi qu'ensemble, à deux, ils viennent exposer la requête des Grecs à Jésus. Et c'est alors que Jésus s'écrie avec un frémissement, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Mes amis nouveaux venus, je ne vous connais pas, mais je suis persuadé que si vous êtes venus au camp Mahanaïm, et que si d'autres s'ajouteront à nous dans la soirée ou dans la journée de demain, c'est parce que tous vous avez des besoins spirituels. Est-ce vrai? Ou me trompais-je? Vous connaissez la signification de Mahanaïm, qui revient 13 fois dans l'Ancien Testament et qui signifie le camp de Dieu. Je pense que vous êtes quand même informés pour savoir où vous alliez et ce que vous risqueriez d'y rencontrer. Mahanaïm, le camp de Dieu, c'est le nom que le patriarche Jacob a donné au lieu où il rencontra les anges de Dieu dans un moment crucial de son existence. Il revenait dans son pays après 20 années d'un dur exil et il apprenait que son frère Ésaü venait à sa rencontre. Et ce frère était la cause de son exil, puisque Ésaü avait juré de tuer Jacob, qu'il avait trompé, qui avait pris son droit d'aînesse et ravi la bénédiction paternelle avec beaucoup de ruse. 20 ans plus tard, Jacob est revenu dans son pays et il a peur de rencontrer son frère. Il est dans l'angoisse parce qu'il a eu marche à sa rencontre avec 400 ans. Alors il se jette dans la poussière. Et il prie. Et c'est à ce moment-là qu'il a une vision d'ange. Il voit deux cohortes angéliques qui se rencontrent. Et il est puissamment fortifié par cette vision. Et il est assuré que Dieu ne va pas le laisser. Et il s'écrie, mais c'est le camp de Dieu. Et il donna à cet endroit ce nom, Mahanaïm, qui veut dire camp de Dieu, et en même temps, deux cohortes. Alors il m'a semblé qu'aujourd'hui, nous vivions exactement cette chose. Un groupe nouveau vient se joindre au groupe qui est ici depuis 8 jours, et auquel nous avions dit, vous avez bien fait venir. Je me suis demandé ce soir si je m'étais trompé en vous donnant à l'avance une telle assurance. Il y a 8 jours, nous disions à ceux qui étaient rassemblés dans cette salle, vous avez bien fait de venir. Je n'avais aucune assurance charnelle quand j'ai prononcé cette parole. Et puis j'ai ajouté ce que Corneille disait, nous sommes maintenant ensemble devant Dieu pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Alors je me demande, pouvez-vous dire aujourd'hui, vous qui venez de vivre ces journées, pouvez-vous témoigner devant ceux qui viennent d'arriver et qui arriveront que réellement vous avez bien fait de venir et que dans ces journées que nous avons passées ensemble, nous les avons passées devant Dieu. Et que nous étions là pour entendre ce que Dieu avait à nous dire, de personnel, de précis, atteignant nos consciences et atteignant nos cœurs. Vous êtes-vous senti concerné dans cette semaine par la parole de Dieu et qui vous a été présentée, que vous avez lue en groupe ou que vous avez entendu dans cette salle ou dans le silence de vos cœurs. Dieu vous a-t-il parlé personnellement? Eh bien, vous seul pouvez en rendre témoignage. Et demain soir, ce sera votre journée. Avant le grand départ dimanche, vous, si vous voulez partager avec vos frères ce que Dieu vous aura dit, cela pourrait être pour eux un encouragement. Il n'est pas question de moi. Il est même possible que je ne sois pas là demain soir. Alors, vous aurez l'occasion de pouvoir partagez entre vous ce que le Seigneur aura fait pour vous. Et de constater si nous nous sommes trompés en vous disant « Vous avez bien fait de venir. » À vous qui formez la seconde cohorte qui s'ajoute à la première, je vous considère dans la foi comme ces gens dont il est dit dans le chapitre 2 des Actes, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvé. Ce n'est pas vous qui êtes venu, c'est le Seigneur qui qui vous ajoute à nous. Donc, vous n'êtes pas des étrangers, puisque c'est le Seigneur qui vous ajoute, nous sommes persuadés que c'est le Seigneur qui vous envoie. Et je demande instamment à Dieu que vous puissiez, à la fin de cette deuxième partie du camp, reconnaître. Oui, c'est vrai. Je n'y suis pas venu de moi-même. Le Seigneur m'a envoyé en ce lieu. Le Seigneur vous a simplement ajouté à ceux qui sont là aujourd'hui, et ceux qui viendront dans la soirée, ou cette nuit, ou demain, nous les considérerons comme des frères que Dieu ajoute à ce groupe qui forme en ce lieu son assemblée, une expression de son corps sur la terre. Ceci dit, je voudrais simplement préciser que Mahanaïm n'est pas une église particulière, que Mahanaïm n'est pas une institution ou un club privé. C'est un groupe qui se forme et se reforme chaque année depuis 11 ans. Tous les ans, nous avons eu des nouveaux venus de races, de couleurs différentes. Une fois, nous avons eu même les 5 continents représentés. Au début, donc, on ne se connaît guère. Et il faut des André et des Philippe pour mettre les uns et les autres en contact, pour écouter les désirs que peuvent avoir les nouveaux venus. Alors, mes amis, nouvellement arrivés, il y a certainement ici des Philippe et des André que vous pouvez contacter et qui vous mettront au courant de bien des choses et iront certainement au-devant de vos désirs. Je souligne qu'au début, chaque année, eh bien, on fait cette expérience, on se connaît guère, même si on a une petite étiquette. C'est déjà beau de voir que chacun de vous a un nom, est une personne et qu'on vous a pas mis des numéros ou un chiffre, puisque nous sommes dans l'ère du chiffre, mais que vous êtes des personnes et ces noms s'inscrivent dans nos cœurs et ces noms nous deviennent chers et ils s'augmentent d'année en année. Et alors, si les débuts sont quelquefois un peu difficiles au sujet des contacts que nous avons à prendre, bien souvent, nous découvrons que les uns et les autres viennent de milieux spirituels, intellectuels, manuels, fort divers. Nous constatons que nos manières ne sont pas toujours les mêmes, que nous avons des traditions variées et que nous sommes tous plus ou moins marqués par l'éducation que nous avons reçue. Ainsi, vous devez nous trouver très bizarre parce que l'on vous demande sans cesse de rabattre les couvercles des WC. Il semble que dans certains pays ou dans certaines maisons, dans certaines familles, les couvercles, c'est fait pour être simplement dressé. Moi, je croyais que c'était pour empêcher que notre brosse à dents y tombe. Parce qu'il se peut qu'une simple brosse à dents vous occasionne des ennuis dans vos propres maisons. Nous avons eu au camp Jolibé, dans l'Abitibi, cette année même, cette expérience assez désastreuse. Il a fallu aller chercher une brosse à dents qui bloquait les toilettes. Vous vous imaginez la pauvre personne qui devait récupérer son bien et surtout celui qui a dû aller dans ses profondeurs. Oui, vous devez nous trouver bizarres lorsque l'on vous annonce aussi de ne pas mettre vos aimables résidus de gomme que vous avez longuement savourés simplement sur la chaise pour que moi ensuite je m'y asseye, comme ça m'est arrivé ici même dans un autre camp, de telle manière que j'avais un pantalon blanc parce que je recevais une chère sœur qui venait pour un entretien spirituel. Et quand je me suis levé, quelqu'un m'a dit « Tu as les yeux derrière. » C'est assez bizarre. Et j'étais assez humilié, quoique ça m'eût intéressé d'avoir des yeux là. Je n'aurais pas eu besoin de me retourner, surtout que ça ne m'aurait fait toujours que trois yeux, puisque je n'en ai qu'un qui est utilisable. De sorte que, étant handicapé de naissance au sujet de ma vue, eh bien, ça aurait été un avantage. Mais la gomme, là, ne sert pas à grand-chose. Sinon, qu'il a fallu un détergent assez puissant pour l'enlever. Et samedi dernier, ou non, jeudi dernier, je crois que c'était jeudi ou... Oui, jeudi dernier, oui. Lorsque nous avons eu un baptême et que nous voulions descendre par l'échelle, la première chose sur laquelle je mets la main, c'est une gomme qui a été posée là sur l'échelle. C'était peut-être pour que je ne glisse pas. Il faut toujours essayer de voir les bonnes intentions et nous efforcer de ne pas juger hâtivement, car comme je vous l'ai dit, il nous manque un degré de connaissance. Mais nous vous le disons avec affection, pensez un peu aux autres. Et si vous avez tellement besoin de mâcher de la gomme, eh bien, une fois que vous l'avez mâché, si vous ne l'avalez pas, eh bien, mettez-la dans les poubelles où on peut ensuite les évacuer. Mais ayez des mœurs de gens civilisés. C'est tout ce qu'on peut demander. Parce que Jésus était très sensible à cela. Il aimait que, lorsqu'il était invité, que celui qu'il invite l'honore, respecte les usages de la politesse. Et quand cela n'était pas fait, il le ressentait profondément. Vous savez quelle histoire me fait dire cela. Il est invité chez un pharisien. En Orient, quand on en invite quelqu'un, eh bien, à l'entrée, il y a un serviteur, ou si l'invité est un homme de marque, c'est le maître de la maison qui lui-même lui lave les pieds. Parce qu'on marche avec des sandales et on a de la poussière sur les pieds, et les usages en Orient, eh bien, c'était la première chose que l'on fait, c'est d'offrir le lavage des pieds. Si vous allez à Saint-Benoît-du-Lac la semaine prochaine, et si vous y veniez pour un repas, vous verriez le supérieur vous laver les mains avant que vous alliez prendre votre place au milieu des moines, justement pour rappeler cet exercice de l'hospitalité, et que c'est le supérieur qui doit servir celui qui est inférieur, comme Jésus lui-même l'a fait. Donc il y a là une leçon que Saint Benoît a voulu perpétuer dans ses monastères. Eh bien, nous croyons que tout cela est bien facile à observer. Alors, puisque nous sommes des gens quand même différents, de mentalité aussi différente, d'éducation différente, au lieu de nous heurter, on va chercher à nous comprendre les uns les autres. Puis on se dira la vérité les uns les autres dans l'amour. Et surtout, on cherchera à voir, en dehors des manières qu'un homme ou qu'une femme peuvent avoir, on cherchera à voir dans notre prochain un plus grand que nous. C'est ce que je voudrais vous laisser ce soir. Nous allons tous chercher à voir dans notre prochain quelqu'un de plus grand que nous. Est-ce que nous allons nous tromper? Qui est celui qui, dans mon prochain, est plus grand que moi? C'est Jésus. Alors, c'est quelque chose de merveilleux. Quand vous commencez à voir Jésus, puisqu'il est mort pour tous les hommes, il est mort pour cet homme. Vous n'allez pas lui demander depuis quand il est sauvé, puis s'il est sauvé. Finissez-en avec ces questions. Occupez-vous de vous-même, de savoir si vous manifestez, vous, que vous avez un sauveur, si on voit ce sauveur en vous. Ne vous inquiétez pas trop du salut de votre prochain dans ce camp. Ne faites pas le frère tire-bouchon qui veut savoir, hein, et qui enfonce là son instrument. Ayez de la décence et dites à Dieu, je suis venu ici pour t'écouter et pour apprendre ce que tu as à me dire. Et si votre vie est telle qu'elle doit être, vous serez surpris de voir les gens eux-mêmes venir à vous et vous poser non pas la question « Est-ce que tu es sauvé ?» mais vous dire « Qu'est-ce qu'il y a en vous que moi je n'ai pas ?» Qu'est-ce qu'il y a en vous? Je remarque en toi une vie que moi je ne possède pas. Et alors, vous serez prêt, comme le dit l'apôtre Pierre, à répondre avec douceur et crainte à quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Vos camarades vont vous observer. Ils vont voir ce que vous êtes, ce que vous faites, ils vont entendre ce que vous dites et vous commencerez à les intéresser. Mais vous, ne les achalez pas. Comprenez-vous? Comprenez-vous? Il nous faut de la discrétion. Et la vie d'une âme, elle est sacrée. Vous n'avez pas le droit de violer l'intimité d'une âme, mais vous avez à être auprès de cette âme, toujours prêt à l'aider et à lui répondre si elle a besoin de vous ou d'un conseil. Et c'est comme cela que le Seigneur sera honoré et sera grand au milieu de ce camp et sera vu par tous. Nous désirons voir Jésus. Et si nos sentiments sont semblables à ceux de ces Grecs, l'heure sera venue pour que réellement le Fils de l'homme soit glorifié. Et pour que nous connaissions comme une nouvelle effusion du Saint-Esprit remplissant tous nos cœurs, les cœurs de ceux qui vont nous quitter, comme les cœurs de ceux que le Seigneur ajoute à notre groupe. Alors ce soir, dans la foi, je m'écris en pensant à vous, mes amis, qui venez grossir le camp, et en pensant aussi à vous, bien-aimés, car j'ai appris à vous aimer, à vous qui allez nous quitter. Oui, je m'écris, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Dans vos vies, vous qui êtes venus, dans vos vies, vous qui vous en allez. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. C'est Jésus qui l'a dit. En ce soir du 15 novembre. Et vous savez que depuis une semaine, nous étudions dans les évangiles les passages essentiels où Jésus s'est présenté justement comme le Fils de l'homme. Nous avons souligné, vous l'avez vu, en lisant ce dépliant que plus de 80 fois dans les évangiles, Jésus s'est nommé lui-même le Fils de l'homme. Alors, dans la semaine qui vient, nous allons, comme dans les précédentes soirées, continuer à nous mettre chaque soir à l'écoute du Fils de l'homme et le matin, nous allons poursuivre en atelier nos études sur l'épître aux Hébreux où nous avons appris à connaître le merveilleux message qui nous est révélé dans ces pages bénies de cette lettre dont l'auteur est resté anonyme. Voilà pour les choses spirituelles. Le but de ce camp, vous l'avez lu dans le dépliant, les quelques règles qui sont imprimées, nous vous les répétons, c'est pour nous soumettre aux lois de la province. Par mesure de prudence, il est interdit de fumer dans les tentes ou dans la forêt environnant le camp. Excellente occasion pour une cure de désintoxication. Toute personne ne respectant pas ces règles sera prié de quitter le camp. Parce que un premier témoignage chrétien, c'est de nous soumettre aux autorités. Et pour être aussi très pratique, et vous signaler qu'il n'y a pas que les brosses à dents qui peuvent boucher les WC, nous recommanderons simplement à nos sœurs de mettre dans des sacs en plastique qui se trouvent dans chaque WC ce qui doit y être déposé lors de leur période régulière. C'est très simple, nous sommes tous humains et nous nous respectons les uns les autres. Mais si vous ne vous conformez pas à ces règles, et si vous voulez vraiment humilier des hommes, eh bien vous les obligerez à descendre dans les fosses à purins pour faire un déblocage. Parce que ça a dû avoir lieu ici. Et celui qui est le ménager du camp cette année a dû y descendre. Pourquoi ? Parce que certaines personnes n'ont pas trouvé bon de se conformer à ces règles. Mais nous sommes persuadés que cela n'arrivera pas dans ce camp. Désormais. L'horaire du camp, vous l'avez, vous pouvez le voir. Le réveil, il y a eu un petit changement. Il a lieu en musique à 8h moins le quart. Et à 8h, les exercices physiques légers au bord de l'eau avec baignade qui sont facultatifs. Et à 9h moins le quart, le petit déjeuner. Pour qu'on ait un quart d'heure de plus pour le déjeuner. À 9h45, nous avons des entretiens ou ateliers sur le thème du camp, les droits du Fils de l'homme. Et à 11h15, théoriquement, des activités récréatives variées sur terre ou sur l'eau. À moins que vous-même, vous vouliez préférer de continuer des entretiens sur l'étude biblique. Tout cela dépend du temps, mais nous voudrions tout de suite vous dire qu'après cette heure-là, si vous voulez vous en aller, vous êtes libre. Et que vous n'êtes pas obligé de rester si vous n'êtes pas intéressé par la parole. Pourtant, le but de ce camp, la raison d'être de ce camp, c'est ces études bibliques. Mais, en dehors du temps convenable, vous n'êtes pas obligé de prolonger si vous n'en pouvez plus ou si votre dos vous fait est trop mal. Nous sommes simplement disponibles pour ceux qui désirent avoir peut-être quelques éclaircissements sur ce qui a été dit et qui trouvent encore plus de joie à approfondir leur connaissance biblique. Mais croyez-le, nous ne jugeons personne. Si vous sortez, nous ne sommes pas de ceux qui pensons nécessairement que vous n'êtes pas intéressés. Ça ne m'effleure même pas. Alors sentez-vous libre de ce côté-là. À 12h30, c'est la préparation au dîner. À 13h, c'est le dîner. À 13h30, l'évaluation de la journée et la préparation pour la soirée. Je n'allonge pas, je dis que les André et les Philippe vous direz aux nouveaux venus un peu comment les choses se passent, c'est aussi votre travail. À 14h, le repos, le temps libre, deux fois par semaine, ou même maintenant trois fois, il y aura une équipe pour l'équitation. À 15h, l'ouverture de la cantine jusqu'à 15h15, puis, dès 15h aussi, la natation, la voile, le ski nautique, le canotage, rame ou pédalo, et en même temps d'autres activités pour ceux qui en font le choix. À 15h30, des leçons de musique, d'artisanat ou des entretiens spirituels peuvent avoir lieu. Et la fin de toutes ces activités à 18h, pour la préparation pour le souper qui a lieu à 18h30. À 19h30, nous avons des sports organisés. À 20h, moments folkloriques, films, diapositives ou jeux d'hiver. À 20h45, musique et chant. À 21h, lecture biblique et messages spirituels. Ça peut être encore modifié, pas le thème, mais l'heure, à l'écoute du Fils de l'homme, et aussi la longueur du message peut être raccourcie bien volontiers. À 22h, la collation chaude, et à 23h, l'extinction des feux. Voilà l'essentiel de ce que nous avions à vous communiquer et que vous communiquerez vous-même à ceux qui n'étaient pas là ce soir. Alors, maintenant, je fais simplement les présentations des personnes responsables. Ma femme, elle est là, qui est médecin, est